Scott et de sa pétasse de petite copine. Il aimerait qu'ils règlent leur putain de problème d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce que fait Tommy. Rien à foutre, chérie, chantonne-t-il. Et il place le rasoir tout contre le visage d'Heather. Puis il tire violemment comme s'il tirait sur la corde d'une tronçonneuse. Du sang, le peu qu'il lui reste, gicle sur le mur à la gauche de Tommy et éclabousse le rideau de douche. Non ! Frank s'entend hurler. Mais ce qu'il voit ici en voûtant si affreusement fascinant qu'il reste cloué sur place, planté dans ses chaussures mouchetées de dégueulis. Et tout ce qu'il parvient à faire, c'est se précipiter en avant quand Tommy Scott se tranche la gorge à son tour. Faut des couilles pour faire ça, dira par la suite Frank. Faut des couilles en acier trempé pour se trancher la gorge et le faire aussi profondément. Tommy n'a pas saigné jusqu'alors. Et Tommy n'est pas un avorton. Il doit faire 1m80 pour 80 kilos. Et quand il se sectionne la jugulaire, ça jaillit comme une bouche d'incendie à un coin de rue au plus fort de l'été. Frank s'en prend plein la bouche. Ça lui asperge les yeux, les cheveux, sa chemise est trempée. Et tandis qu'il s'efforce d'attraper le gamin, tandis qu'il s'efforce de le tirer hors de la baignoire et de l'allonger par terre pour juguler l'hémorragie avec ses doigts, il ne peut s'empêcher de se demander si Tommy Scott est séropositif ou s'il a le sida, une hépatite ou autre chose. 2 minutes. Peut-être 3 maxi, et Heather machin chouette sera morte pour de bon. Frank Parrish parvient à les sortir de la baignoire. Plus tard, il ne se souviendra pas comment il a fait, où il a trouvé la force. C'est un méli-mélo de jambes et de bras tordus, du sang partout, il n'en a jamais vu autant. Il est agenouillé au-dessus de Tommy Scott qui est désormais étendu sur le tapis de la salle de bain, agité par des convulsions et baragouinant comme s'il avait les doigts dans une prise de courant. Et le sang qui continue de pisser. Frank lui serre la gorge suffisamment fort pour l'étrangler, mais c'est une vraie fontaine. Et ça coule, ça coule, ça coule. Heather est morte. Elle est inerte. Plus rien à faire. Rien à foutre, Frank. C'est la dernière chose que dira Tommy Scott. Les mots sont étouffés par le flot de sang. Mais Frank les reçoit 5/5. Il meurt avec un sourire sur le visage comme s'il estimait que ce qu'il attend de l'autre côté est sacrément mieux que ce qu'il laisse ici. Frank s'assied dos contre la baignoire. Il est couvert de sang qui commence à sécher. Le négociateur pénètre dans la salle de bain, lui fait savoir aussi sec qu'il a merdé, qu'il aurait pu leur sauver la vie. Leur sauver la vie ? Demande Frank. Pourquoi faire ? Exactement. Et le négociateur le toise avec cette expression qu'ils ont tous. J'ai entendu parler de vous, voilà ce que dit cette expression. Je sais tout sur vous, Frank Parrish. Et Frank lui dit, allez vous faire foutre. Un jour, il ne sait même plus quand, quelqu'un a demandé à Frank Parrish pourquoi il avait choisi ce boulot. Frank se rappelle avoir souri. Et répondu, vous est-il jamais venu à l'esprit que c'était peut-être le boulot qui m'avait choisi? Il se relève péniblement et se met en quête d'une cigarette. Chapitre 2. Frank Parrish passe un coup de fil depuis l'angle de Nevin Street, près de Wyckoff Gardens. « Tu es chez toi ?» demande-t-il.
« Bien sûr, chérie, je suis à la maison. »«
J'arrive. J'ai besoin d'un bain et de me changer. »«
Où es-tu ?»«
Dans Nevin's, à une demi-douzaine de rues. »«
Je t'attends. »
Il enfonce son portable dans sa poche, prend la direction de la station de métro Bergen Street, dans Flatbush Avenue. Bon sang, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Demande-t-elle en ouvrant la porte, plissant le nez sur son passage. Il s'arrête, se retourne, se tient les bras ballants, paume vers elle, comme si elle savait déjà tout de lui, comme s'il ne pouvait rien lui cacher. Un type qui a tué sa petite copine puis qui s'est suicidé. Il s'est tranché la gorge. Il sent la tension du sang séché dans ses cheveux, dans ses narines, ses oreilles, entre ses doigts. Je t'ai fait couler un bain, dit-elle. Il fait un pas vers elle, sourit. Ève, ma douce, sans toi, je ne sais pas ce que je ferais. Elle secoue la tête. Tu racontes vraiment que des conneries, Franck. Bon, maintenant, va prendre un bain pour l'amour de Dieu. Il se retourne et longe le couloir. Il entend de la musique quelque part. The Only Living Boy in New York. Il est étendu dans l'eau rose, les cheveux mouillés, les yeux qui le piquent à cause du shampoing à l'extrait de jojoba qu'elle lui achète. Les ombres ne sont que des ombres, songe-t-il. Elles ne peuvent pas nous faire de mal tant qu'on ne les prend pas pour autre chose. Mais quand on commence à le faire, eh bien, on finit par leur donner des dents et des griffes. Et alors, elles finissent par nous avoir. Franck, entre! Ève entr'ouvre légèrement la porte et se glisse dans la salle de bain. Elle s'assied sur le rebord de la baignoire. Elle ne porte que ses sous-vêtements et un peignoir. Elle baisse la main et agite les doigts dans l'eau. Dis-moi ce qui s'est passé avec ce garçon et sa petite amie. Franck secoue la tête. Pas maintenant. Je te raconterai ça un autre jour. Tu veux boire quelque chose? Il secoue de nouveau la tête. Tu veux un joint? Franck sourit. J'ai arrêté quand j'avais une vingtaine d'années. Et puis, tu ne devrais pas fumer cette merde. C'est mauvais pour le moral. Ève ignore sa réflexion. Franck se redresse dans la baignoire. Sa position est exactement la même que celle de Thomas Franklin Scott. Ève lui tend une serviette. Il s'essuie les cheveux, puis la lui rend pour pouvoir sortir de la baignoire. Il se tient devant elle, nu et trempé. Elle saisit son pénis, commence à le masser, baisse la tête et le prend dans sa bouche. Aucune réaction. Tu veux quelque chose? Demande-t-elle. Quoi? Une de ces pilules? Bon Dieu, Ève, non. Le jour où j'aurai besoin de ces saloperies pour bander, je saurai que j'ai fait mon temps. Tu m'aimes toujours, oui? Franck sourit. Il tend les mains, elle les saisit, et il l'aide à se relever. Il la serre entre ses bras, sent la chaleur de son corps contre son corps humide. Il frissonne. Tu vas bien? Il fait oui de la tête, mais ne répond rien. Il voudrait dire. Non, Ève, je ne vais pas bien. Pas exactement. Parfois, j'ai des conversations avec ceux qui ne s'en sont pas sortis. Ceux que je n'ai pas trouvés à temps. Ceux qui m'ont glissé entre les mains et qui sont morts. Ça irait s'ils ne me répondaient pas. Mais ils me répondent. Ils me disent qu'ils m'en veulent. Que j'ai merdé. Que je n'ai pas compris ce qui leur arrivait. Que maintenant ils sont dans les limbes. Franck! Il se penche en arrière, la regarde droit dans les yeux et il sourit comme si c'était Noël. Je vais bien, dit-il. Mieux que bien. Tu vas rester prendre un petit déjeuner? Non, faut que j'y aille, répond-il. J'ai rendez-vous. Qui? Juste un truc pour le boulot. Café? D'accord, dit-il. Corsé, moitié café, moitié lait. Elle quitte la salle de bain. Franck se penche vers le miroir, incline la tête en arrière et scrute l'intérieur de son nez. Il appuie avec la base de son pouce sur la narine droite et expulse du sang de la gauche à 100 km/h. Il baisse les yeux vers l'étroite giclée de Tommy Franklin sur la porcelaine blanche. Le recul, l'illumination claire et évidente de l'histoire. Il prononce la prière. Celles qu'ils disent tous à de tels moments. Faute de mieux, Seigneur, accordez-moi juste un jour de plus. Franck Parrish laisse $100 sur la commode près de la porte de l'appartement d'Ève Challoner. 3 ans qu'il vient ici, depuis qu'elle a été interpellée pour racolage. Il s'est arrangé pour égarer la paperasse, pour qu'on lui foute la paix. Pas parce qu'il s'est dit qu'il pourrait la baiser gratis, mais parce qu'il a éprouvé quelque chose pour elle. De la sympathie? Non, Pas de la sympathie.